J'aimerais partager avec vous un passage de l'Écriture et j'aimerais qu'il soit affiché. Alors, je ne sais pas si vous pouvez le préparer. C'est dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1 et le verset 15. Je laisse le temps de l'afficher parce que j'aimerais vraiment qu'on puisse le lire ensemble. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. Mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. C'est un texte que j'ai lu lors de ma dernière hospitalisation. J'ai beaucoup de temps à l'hôpital. Il n'y a pas beaucoup de choses qui viennent nous déranger lorsqu'on est uniquement préoccupé de récupérer, de se relever, de se prendre soin un peu de soi dans toutes les dimensions de sa vie. Et il y a quelques semaines, je lisais ce passage de l'Épître aux Philippiens. Je le relis encore une fois. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Ce passage m'a interpellé parce qu'il parle de notre motivation. De notre motivation à annoncer la bonne nouvelle de Christ. On a entendu une parole ce matin qui disait « Tu es devenu tiède dans le fait d'annoncer l'Évangile. » Alors, je ne sais pas ce qu'il en est de moi. J'essaye en tout cas de ne pas être gâté par la tiédeur ou gagné par la tiédeur. Mais c'est vrai que la question se pose quand on lit ce passage sur « Qu'est-ce qui me motive à annoncer l'Évangile ?» Il peut sembler naturel, voire évident, qu'annoncer le salut qui nous est accordé par grâce, qui nous ouvre les portes de la réconciliation avec Dieu, ne peut procéder que d'une bonne volonté, d'une motivation saine. Hein ? D'un acte de bienveillance envers autrui, comme l'apôtre Paul semble le dire. Et pourtant, Paul met le doigt sur ce qui est dans la nature de l'homme. Alors, quand je dis l'homme, dans ce cas-là, je dis c'est la nature de l'être humain. Les femmes sont concernées. Et cette nature, c'est de vouloir utiliser ce qui est juste et bon à son profit, pour soi-même. Détourner, semble-t-il, pour l'apôtre Paul, la bonne nouvelle, parfois en toute bonne conscience, pour son propre bénéfice. En fait, on le fait plus pour soi que pour l'autre. Alors, c'est un verset qui m'a beaucoup, beaucoup interpellé ces dernières semaines. Je l'ai partagé en réunion de prière il n'y a pas longtemps. Je l'ai partagé en commission des ministères avec des frères il y a une quinzaine de jours. Et je me suis dit, ce matin, je vais le relire avec vous. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent dans des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour. Paul écrit cette lettre à l'église de Philippe dans un contexte particulier, puisqu'il précise dans cette épître qu'il est dans les liens et qu'il s'adresse à une église avec laquelle il a des liens affectifs profonds, est vrai. Mais il est dans les liens, c'est-à-dire qu'il est emprisonné. C'est une église qu'il a fondée lui-même, il a prêché l'évangile, cette église est née. Et puis, vers environ 50 après Jésus-Christ, hein, donc c'est, on va dire, une quinzaine d'années après la résurrection, il a fondé cette église et il l'a visitée lors d'un voyage missionnaire, le troisième voyage qu'il a effectué. Il l'a visitée pour l'encourager. Et là, il parle aux Philippiens sur deux attitudes différentes, deux motivations qui sous-tendent l'annonce de l'Évangile. Certains prêcheraient Christ par envie et par esprit de dispute, d'autres avec des dispositions bienveillantes. Si vous êtes attentif, et moi je vous y invite, quand vous lisez le texte, de toujours chercher un petit peu les petits mots-clés qui permettent de comprendre ce verset ou les passages que vous lisez. Là, la motivation, elle est introduite par un tout petit mot de trois lettres, par. La motivation, c'est ce qui est fait par. On prêche par. Il y en a qui prêchent par envie, d'autres par esprit de dispute. Et on a, juste après, il dit, mais d'autres prêchent avec des dispositions bienveillantes. On se dit, ça doit être le troisième par. Pas du tout. Le par, il vient après. Ceux-ci agissent par amour. Donc, il y a par envie, par esprit de dispute ou par amour. Et ça veut dire que là, on a deux attitudes, deux comportements différents. Et quand l'apôtre Paul parle de cela, il met le doigt sur à la fois la nature de l'homme, mais aussi ce que l'Église connaît à ce moment-là, à la fois dans l'Église de Philippe, mais ailleurs, c'est-à-dire des personnes qui ont des motivations qui peuvent être différentes. Alors, quand j'ai lu ce texte-là, j'étais là et je me disais, mais Seigneur, est-ce que ça m'est arrivé de vouloir annoncer l'Évangile par envie? Et quelle envie? Et puis, si je suis honnête avec moi-même, oui, c'est arrivé. C'est arrivé parce que, pour le coup, je suis un homme et qu'il m'est arrivé, parfois, d'avoir des motivations qui n'étaient pas aussi limpides et spirituelles qu'il me semblait qu'elle l'était au moment où j'ai agi, où j'ai proclamé la parole de Dieu, où j'ai essayé de partager la bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'il y avait des envies personnelles? Parfois, moi, je veux dire oui. Et je suppose que vous aussi, si vous laissez le Saint-Esprit vous parler, vous direz, il y a des fois, c'était plus moi que l'Esprit. Quelle peut être l'envie personnelle derrière la motivation qui m'animait, qui nous anime, ou qui anime ceux dont l'apôtre Paul parle? La première envie qui nous anime, c'est l'envie de profiter du savoir que nous détenons ou du pouvoir que nous avons, et un pouvoir que nous souhaitons utiliser aussi pour nous-mêmes. C'est bon d'avoir du pouvoir. Il y en a qui font, ils disent, je ne veux pas avoir de pouvoir. Pourtant, la chute, elle relève d'une envie. Si tu manges de ce fruit, tu vas te dédouaner de l'autorité et du pouvoir de Dieu sur ta vie et tu vas avoir ce pouvoir pour toi. C'est cela la chute. Je peux me passer de Dieu. Vous, je ne sais pas, mais dans ma vie, ma nature humaine me conduit régulièrement à faire ce constat. Tiens, là, j'ai essayé de faire les choses tout seul, là, comme un grand. Parce que je suis capable et parce que je peux. Vous, non, vous êtes des saints. Mais moi, ça m'arrive. C'est pour ça que Dieu m'a donné une épouse. Pour me rappeler que, il faut peut-être revenir dans un droit chemin et essayer de éviter de faire les choses tout seul par ton pouvoir. Ça, c'est une de mes fragilités. L'envie de savoir, un savoir, une connaissance que l'autre n'a pas. Quand on est là à vouloir prêcher l'Évangile, il arrive parfois qu'on est tellement conscient de ce savoir que nous avons et qui nous donne le pouvoir par rapport à l'autre, être dans une position dominante parce qu'on détient ce savoir que l'autre n'a pas. Je dirais même qu'à fortiori, il faudrait éviter qu'il ait ce savoir-là pour qu'on garde le pouvoir sur lui. Jamais l'Église n'a agi comme cela en 20 siècles. C'est ce qui explique pourquoi il a fallu attendre la réforme protestante pour que les croyants puissent avoir accès à la parole de Dieu dans leur propre langue. Parce que l'Église et le clergé ne souhaitaient pas partager le savoir auquel ils avaient accès, ce qui permettait de garder le pouvoir. 16 siècles avant que Wesley traduise en anglais, Luther traduise en allemand, Olivetan et Calvin traduisent en français. 16 siècles, parce que c'était un moyen de garder le pouvoir. Que faisons-nous aujourd'hui de ce savoir qui nous est accessible, de cette parole de Dieu qui est dans la bibliothèque, au mieux sur la table de nuit, peut-être sur la table de notre salon? Que faisons-nous de ce savoir auquel l'Esprit-Saint peut nous donner accès? Ce pouvoir non partagé de la connaissance garantissait la maîtrise de l'autre. Or, le roi David, dans le psaume 25, disait ceci: « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi. » C'est-à-dire, donne-moi accès à ce qui est bon pour moi, pour entrer dans ton salut, pour gagner ce salut, pour le laisser quelque part entrer, pénétrer dans ma vie et aller le plus loin possible avec toi. Est-ce que je suis prêt à aller dans cette dimension-là? Ou est-ce que ce sont juste les envies personnelles qui me guident dans ma manière d'annoncer l'Évangile, y compris de l'annoncer à moi-même? Ce que je veux, c'est savoir, avoir la connaissance, montrer que je suis intelligent, doué. Ou bien est-ce que c'est quand je suis face à l'autre, par amour pour moi, par amour pour l'autre, que je prêche l'Évangile? Zacharie disait au chapitre 8, verset 16, « Voilà ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. » C'est pas ça? Annoncer, prêcher l'Évangile? Je crois qu'en une phrase, Zacharie dit ce qui est juste. Voilà ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Voilà le message d'évangélisation que l'Esprit-Saint fait retentir dans notre vie. Pas par envie, mais simplement parce que l'Esprit de vérité est là pour apporter la vie. L'apôtre Jean, quelques siècles plus tard, dira ceci: « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous asservira. » Non. Ah, vous avez une autre version? « Et la vérité vous affranchira. » Mais vous savez, je crois que dans notre manière de lire l'Écriture et de laisser ou non de la place à l'Esprit-Saint, quand nous nous saisissons de la parole de Dieu, eh bien que soit elle est là, notre manière et notre comportement et notre rapport à l'Esprit et à la parole, soit pour nous asservir, soit pour nous affranchir. Combien d'hommes et des femmes ont eu un rapport à l'Écriture qui leur a été apporté, qu'ils ont reçu, qu'ils ont accepté, et qui les a enfermés dans l'asservissement? Alors, je sais qu'en ce moment, je parle beaucoup du ministère féminin. Je crois que c'est de cet ordre-là. Je crois qu'on a prêché un évangile qui a asservi, je ne vais pas dire la moitié de l'Église. Si je compte et je fais le ratio, il y a plus de femmes que d'hommes ici, dans ce lieu. Mais dans l'Église, en général, il y a trois quarts de femmes pour un quart d'hommes. Et pourtant, ce sont trois quarts de l'Église qu'on a asservie pendant des siècles, à la fois dans l'Ancienne Alliance et à la fois dans la Nouvelle Alliance. parce qu'on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous ouvrir l'Écriture et nous affranchir dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alors vous me direz, oui, mais voilà, on est, nous, dans un état d'esprit où nous voulons prêcher l'Évangile, non pas par envie ou par esprit de dispute, mais par amour. Oui. Il y avait un psychologue qui s'appelle Cartman qui a présenté dans les situations de, pas seulement de conflit, mais de vie, dans le rapport aux autres, ce qu'il appelle le triangle dramatique. C'est-à-dire que dans les relations aux autres, Cartman disait, vous avez trois rôles. Vous avez le rôle de la victime, le rôle du persécuteur et le rôle du sauveur. La victime, le persécuteur, le sauveur. Ce triangle de Cartman, c'est souvent ce que l'on utilise pour décortiquer des situations relationnelles. Alors on sait bien qui est la victime, c'est celle qui est sujette, la personne qui est sujette à la violence, aux coups, aux blessures verbales, physiques. On sait très bien qui est le persécuteur. C'est celui, en tout cas dans son rôle, qui est là pour blesser, meurtrir, assujettir. Mais le sauveur, le sauveur, c'est le beau rôle. Le sauveur, c'est celui qui vient avec une parole, une bonne nouvelle, et qui va libérer. Oui, mais très souvent, dans ce jeu de rôle, le sauveur est aussi un sauveur qui peut jouer son propre rôle pour lui-même. Et lorsque l'apôtre Paul parle de ceux qui prêchent Christ par envie, ils ne prêchent pas Christ pour Christ et par amour. Ils prêchent Christ pour eux-mêmes, pour maintenir une image. Dans le travail que j'ai fait pendant 25 ans, on était très attentif aux conjoints des femmes qui étaient dans la dépendance, et qui semblaient être des sauveurs par rapport à leur épouse. Je suis là pour elle, je veux l'aider, la soutenir. Et puis quand on travaillait avec la structure familiale, on s'apercevait que finalement, le conjoint, il n'avait pas trop d'intérêt à ce que la victime sorte de sa situation de victime. Parce que si elle sortait de sa situation de victime, il perdait son rôle de sauveur. Et c'est tellement gratifiant d'être un sauveur. Quand je disais cela, je me disais, il y a tellement de chrétiens, entre guillemets, qui prêchent Christ par envie, mais qui ne veulent surtout pas que l'autre devienne libre. Parce que je perdrais mon rôle de sauveur. Mais quand on est dans cette situation-là, alors on s'aperçoit qu'en jouant ce rôle de sauveur, on se substitue à Christ. On lui ôte la possibilité dans la vie de l'autre d'être le sauveur à part entière, de libérer, d'affranchir. Combien de pasteurs sont des pasteurs sauveurs qui ne veulent surtout pas abandonner cette position-là, parfois des chrétiens. Est-ce que nous voulons annoncer l'Évangile par envie personnelle afin de devenir le sauveur de l'autre, d'en recueillir de la reconnaissance? Wow. Quand l'autre me dit toute sa reconnaissance de ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, oh, ça dit qui je suis. La question n'est pas là. Qu'est-ce que cela dit de Christ pour l'autre quand tu es à côté de lui? Dans l'épître de Jude, il est dit ceci, dans la doxologie, vous savez, c'est ces passages qui renvoient ou qui glorifient Dieu. Jude dit au chapitre 1, verset 25, « À Dieu seul, notre Sauveur par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance. » À lui seul, à Dieu seul, dans tous les siècles. Amen. Pas au pasteur, pas au frère, pas à la sœur. Ce n'est pas par l'envie que nous avons à être porteurs de l'Évangile. Ce mot tonos, c'est un mot qu'on retrouve dans la Genèse. Vous serez comme des dieux. On a tellement envie d'être comme des dieux, d'être reconnu, d'être gratifié. Mais à Dieu seul soit la gloire. Je prêcherai l'évangile afin que la gloire lui revienne, à lui seul. Alléluia. Dans Ésaïe, le livre d'Ésaïe, il y a aussi c'est « Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur. Et tu sauras que je suis. » Ce fameux nom révélé à Moïse. Voilà ce que je suis. Il ne parle pas de Moïse, il ne parle pas de Josué, il ne parle pas de ceux qui portent la parole. Ils ne sont que des vases, comme dirait l'apôtre Paul, qui portent cette parole essentielle, cette parole de vie. Prêcher Christ par envie, non. Prêcher Christ autrement. Prêcher Christ par esprit de dispute, dit Paul. Il y en a certains qui se plaisent à être dans la dispute. Un esprit de dispute. Ça, c'est bien un esprit bien gaulois. Comme dirait un président récent. Hein? On est bien des Gaulois. On aime bien se disputer. On aime bien discuter. On aime bien argumenter. C'est un sport national qui consiste à maintenir sa position face aux autres et à imposer son opinion. Non, j'impose pas. Je discute. Ça, c'est quelque chose qui nous est propre à nous autres, les Français, hein? Non? Vous vous souvenez pas de repas de famille où tout à coup ça commence à fuser? Et on entretient cela. On a du plaisir à entretenir ces débats vifs, même si parfois ça peut aller assez loin, jusqu'à des moments de rupture ou de fâcherie. Hein? Prêcher Christ par esprit de dispute. Je ne sais pas si vous savez. Regardons nos grilles de programmes à la télévision. Le plus ancien programme qui existe dans ce type d'esprit gaulois où on se chamaille, on se dispute, ça s'appelait « Ça se discute ». Vous ne rappelez pas ça ?« Ça se discute ». Michel Pollack, il y a de ça une cinquantaine d'années. Et c'était des soirées où chacun venait avec ses arguments. Parfois, il y a eu des cendriers qui ont volé. Hein, mais... voilà, c'est typiquement français. Et j'ai fait, il y a pas longtemps, pendant 2 ans, un travail en doctrine pour notre Église, et je me suis plongé dans des disputes interminables pour savoir ce qu'il en était de la doctrine de l'homme, la doctrine de la Trinité, la doctrine de l'Esprit-Saint, la doctrine de l'Église. Et ce sont des bibliothèques entières où vous avez des théologiens qui se répondent aux autres. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste de tout ça? Comment déterminer ce qu'il est juste et bon de croire? On est souvent dans ces débats stériles parce que l'on ne se trompe pas, nous les Français. On ne se trompe jamais. On est sûr de ce qu'on croit. Hein? Alors quand je dis les Français, c'est surtout les hommes. Là, pour le coup, je m'adresse principalement aux hommes. Hein? Il y a une humoriste suisse que j'aime beaucoup qui disait « Quand les hommes se trompent, c'est à la vérité de s'adapter. » C'est une Suissesse, hein, n'est pas retenir tout ce que les Suisses... Mais là, pour le coup, je trouve qu'elle a un esprit assez juste. Par esprit de dispute. Le livre de Job est un conte qui nous propose la dispute entre Job et Dieu, et puis entre ses soi-disant amis, vous savez, les 3 amis qui lui rendent visite parce qu'il a tout perdu, et dont le but est d'amener Job à prendre conscience que ce n'est pas par ses mérites ou sa justice qu'il est agréé de Dieu. C'est vraiment le but du livre, hein, c'est que Job puisse, dans ce récit, qui est construit comme un conte, eh bien, découvrir que ce n'est pas ses mérites qui font de lui quelqu'un d'agréable à Dieu, c'est la grâce de Dieu qui, s'appliquant sur lui et dans sa vie, fait qu'il est reçu de Dieu. Ce ne sont pas ses sacrifices, ses attitudes, ses comportements. 42 chapitres pour arriver à ce que Job, désarmé et à bout d'arguments, admette simplement. Je vous lis le verset 42, 1 et 2. Job répondit à l'Éternel, Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. 42 chapitres pour qu'il en arrive là. Vous savez ce que ça veut dire ? C'est que parfois le Seigneur a besoin de temps pour nous amener à ce point où on baisse les bras, on baisse les gardes de notre raisonnement, de notre rationalité, on puisse lui dire « Bon, ça y est, Seigneur, je suis à bout d'arguments, je ne veux plus discuter. » Et dire comme Job, « Je reconnais que tu peux tout. » Je reconnais que tu peux tout. 42 chapitres. C'est long, hein ? Ouais. Je ne suis pas certain que dans notre vie, on ne soit pas beaucoup plus long avant de poser le genou à terre et de dire au Seigneur, « Je reconnais. J'arrête d'argumenter. Je ne veux plus discuter. » Je ne veux pas avoir un esprit de dispute que j'entretiens constamment pour argumenter avec toi. Je reconnais, Seigneur, que tu peux tout dans ma vie. Après des décennies de vie avec Dieu, j'ai le sentiment d'avoir vécu l'Église tellement dans des combats stériles, inutiles, qui ne nous ont pas fait avancer. Quand je parle d'Église, c'est l'Église nationale. Et le premier bénéficiaire, vous savez, de cette attitude, d'un esprit de dispute, vous savez, quel est le premier bénéficiaire de cela quand nous entretenons un esprit de dispute dans nos vies et dans l'Église ? C'est qui ? Satan, l'adversaire, l'ennemi. Vous savez, lui, ah, il se frotte les mains. Quand nous sommes toujours dans l'argumentation en disant « Oui, mais Seigneur, tu comprends que moi, je pense que... » Et puis, parfois même, on dit à Dieu « Si tu savais !» Si, ça nous arrive de dire à Dieu « Si tu savais !» On est tellement sûr de nous. Certains prêchent l'Évangile par esprit de dispute. Et l'ennemi, l'adversaire, se frotte les mains en disant « Qu'est-ce que c'est bien, ça ralentit tellement l'œuvre de Dieu dans sa vie, dans l'Église. L'apôtre Paul dira à deux autres églises, à Éphèse et à Colosse, la même phrase, chapitre 5, verset 16 d'Éphésiens, « Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Rachetez le temps. Non, non, on va encore discuter un petit peu, Seigneur. Seigneur, nous, on n'a que ça à faire. » Rachetez le temps. À Colosse, il leur dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Conduisez-vous avec sagesse vis-à-vis du monde. Ceux du dehors, c'est ceux qui ne sont pas à Christ. Conduisez-vous avec sagesse vis-à-vis d'eux. Rachetez le temps. Ne perdez pas votre temps en dispute, en argutie, en discussion stérile. Rachetez le temps, centrez-vous sur l'essentiel. Dans ta vie, rachète le temps. Oh non, moi j'ai toute ma vie devant moi. Depuis quelque temps, j'en suis moins convaincu. Je veux racheter le temps, Seigneur. Faire que les moments que tu m'accordes, les jours, les semaines, les mois et peut-être les années, que ce soit des temps qui soient précieux, utiles, qui porte du fruit et pas stérile, Seigneur. Alors, Paul dit aux Philippiens, c'est vrai qu'il y en a qui prêchent l'Évangile par envie, par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes, ceux-ci agissent par amour. Ça veut dire que le par, c'est le par amour. Avec des dispositions bienveillantes, par amour. Une motivation qui repose sur un amour qui se donne. Je disais récemment, je le disais lors des obsèques de ma sœur il y a quelques semaines, le verset le plus précieux de l'évangile de Jean, c'est celui que nous connaissons tous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, Jean 3, 16. Souvent, on se dit, que le centre de ce verset, c'est l'amour. Oui et non. Le centre de ce verset, c'est un amour qui se donne. Un amour qui ne se donnerait pas n'a que peu d'intérêt. Un mari qui dirait à sa femme, je t'aime, mais vis ta vie, et puis moi je vis la mienne. Un amour qui ne se donnerait pas n'aurait aucune valeur. Ce qui donne la valeur de l'amour de Christ, c'est qu'il s'est donné. Et d'ailleurs, dans l'Épître aux Philippiens, il dit qu'il s'est vidé de lui-même. Il a tout donné, il n'a rien gardé pour lui. Est-ce que je suis prêt à vivre l'Évangile dans la même mesure que l'amour de Christ qui s'est donné totalement? Un amour qui veut se donner, qui veut partager, que ce que j'ai reçu par grâce, je le partage. Un amour qui libère et non pas qui asservit, un amour qui se met au service de l'autre. Voilà le projet d'une prédication de l'Évangile à la mesure de Christ. Alors, lorsque je lisais cela, je disais, mais Seigneur, bon, pas par envie, par esprit de dispute, mais par amour. D'accord. Mais comment est-ce que je peux avoir un amour qui se donne et il est dit ici, annoncer l'Évangile par amour avec des dispositions bienveillantes. Et puis on se dit, mais des dispositions bienveillantes. Mais moi, je suis bienveillante. Oh, je suis bienveillant avec vous, hein. Voilà, mais c'est quoi? Ça veut dire quoi? Dans tous les EHPAD de France, il y a de la bienveillance. C'est souligné en ce moment. J'ai entendu la réaction d'une autre société que celle qui était pointée du doigt et qui a dit « Ah, mais chez nous, il n'y a que de la bienveillance vis-à-vis des usagers. » Est-ce que dans l'Église, il y a aussi cette bienveillance? Vous savez, on est prêt à pointer le monde. Mais quand je vois combien nous pouvons faire preuve d'un amour non bienveillant dans l'Église, par rapport à nous-mêmes, par rapport à l'autre et par rapport à ceux qui sont dehors. Sommes-nous bien différents? Vous savez, j'entends beaucoup, tout au long de cette campagne qui a eu lieu, on a pointé du doigt l'islam avec des amalgames entre islam et islamisme. Et je me souviens des cours d'histoire de l'Église que nous avions lorsque nous avons fait notre formation, Francine, Catherine, moi, Michel. Et quand j'entendais comment l'Église s'était comportée, waouh! Parfois on a honte. Au nom de l'Évangile, on parle par exemple des chrétiens qui sont en Chine et qui ont été évangélisés au XVe siècle par François Xavier. Et il est dit, à la pointe des baïonnettes, on a converti des populations et des villages entiers de cette manière-là. Est-ce que c'était par amour et bienveillance? Alors, être bienveillant, comment est-ce que je peux être bienveillant? Et je terminerai avec cela. La bienveillance, ça repose sur, dans mes lectures, trois deuils au moins à faire. Pour avoir un amour bienveillant, il faut faire le deuil de notre capacité individuelle à agir. Je m'explique. Pour être bienveillant, il faut faire le deuil de cette conviction qui consiste à penser que c'est « je suis capable de changer l'autre ». J'ai les capacités à. J'ai le potentiel, puis tout dépend de moi. Ouais. Quand on fait le deuil de cela, qu'on se dit, ce n'est pas moi qui peux agir, mais c'est l'Esprit de Christ en moi. Il y a un modèle qu'on retrouve à la fin de l'Évangile de Jean, c'est Christ qui accompagne les deux pèlerins d'Emmaüs. Moi, je dis, qu'est-ce qu'il perd comme temps quand même?
Non. Il rencontre deux pèlerins qui sont découragés, qui ont vu la crucifixion, la mise au tombeau. Et puis, ça fait des mois, pour ne pas dire 3 ans, qu'ils accompagnent ce prophète qui était formidable, etc. Et puis là, tout à coup, il est mort. Donc, ils repartent désabusés en se disant, ben voilà, on a perdu notre temps ou bien quoi. Et puis, il y a quelqu'un qui vient à côté d'eux et qui marche à côté d'eux. Et vous savez quoi? C'est Jésus. Et ce Jésus... Moi, je me dis, mais pourquoi il ne leur dit pas tout de suite, mais regardez-moi, c'est moi, Jésus. Non, il prend le temps d'être à côté, de marcher avec eux et de marcher au rythme de leurs pas et du chemin intérieur qu'ils ont à faire. C'est seulement le soir où il fait semblant de dire, bah, je continue. Non, non, reste avec nous. Il partage le repas, il rend grâce et là, leurs yeux s'ouvrent. C'est à ce moment-là, mais juste avant, il leur a expliqué l'Écriture. Et eux-mêmes disaient, mais quand il nous disait ça, notre cœur brûlait. Ouais, il a avancé à leur rythme. Qu'est-ce que je suis reconnaissant d'avoir un Seigneur qui a cet amour-là, qui suit le rythme de ce que nous pouvons vivre. Annoncer l'Évangile, c'est l'annoncer au rythme de l'autre. C'est respecter l'autre. Et d'ailleurs, le deuxième deuil, c'est l'image que nous avons de l'autre. Faire le deuil de l'image qu'on a. Ah oui, mais je sais comment il est, je sais, voilà comment je vais faire, voilà ce que je dois dire à mon mari, à ma femme, à mon voisin, à ceci. J'ai de telles représentations de l'autre que finalement, je sais bien ce qui va jouer, ce qui va matcher. Est-ce qu'on est prêt, dans l'amour que nous avons de l'autre, de faire le deuil des représentations que nous avons de lui ou de elle ? Pour être vrai avec lui et elle. Wow, non, vous n'avez pas, je n'ai pas de représentation. En 1982, je travaillais avec un homme âgé. Pendant mon stage pastoral, je faisais des travaux dans le château de Villequier qui appartenait à l'église pour faire des centres de vacances, etc. Et puis c'était un homme, bon, il avait 70 ans à l'époque, il était mais rempli d'amour, de tendresse pour l'autre, très pratique, mais voilà, il était ouvert aux autres et tout. Puis il y a une réunion, le mardi soir, on est allé à la réunion de prière de Lillebonne, et puis là, il y a le pasteur Jacques Vasseur qui dit, voilà, on va prier ensemble, et puis qui introduit un petit peu la réunion, qui partage l'Écriture en introduction avant les temps d'intercession, et puis... Ce monsieur qui était là était juste devant moi, et puis moi j'étais un peu en retrait, et puis à côté de moi il y avait un garçon africain, et puis ce monsieur, voyant un frère africain, à chaque fois que Jacques Vasseur a apporté une pensée, il lui expliquait d'une manière très simple pour qu'il comprenne bien ce que le pasteur était en train de dire. Là, le pasteur, voyez-vous, il est en train de dire que dans la Bible, vous connaissez un peu la Bible peut-être, ben voilà, Dieu parle aux hommes de telle manière. Puis il lui expliquait avec des mots très simples pour qu'il puisse comprendre ce que le pasteur disait. Puis il a fait ça pendant une demi-heure. Et à la fin de son intervention, Jacques Vasseur a dit, bien, aujourd'hui, on va prier particulièrement pour un frère africain qui est là. Je vais lui demander de s'avancer, de se présenter, pour dire, voilà, il est là à Lillebonne pour des soins médicaux, donc on va prier pour lui. Puis ce frère s'est levé, c'était celui auquel ce vieux monsieur s'adressait pour lui expliquer ce qui se disait. Et là, cet homme s'est levé, et puis il est arrivé devant le micro, il a dit, bon voilà, je m'appelle un tel. Je suis le consul du Togo en France. Voilà, j'ai fait toute ma scolarité en fac, et puis j'ai fait aussi Sciences Po en France. Et depuis maintenant plusieurs années, je suis le consul de mon pays, représentant mon pays en France. Et là, j'ai vu le vieux monsieur qui était là, qui dit « Ah oui, quand même quand même !» Quelle représentation en avons-nous de l'autre qui nous empêche d'avoir une vraie relation à l'autre ? Est-ce que je peux faire le deuil de mes représentations aux autres pour laisser le Saint-Esprit m'aider à annoncer l'Évangile, prêcher l'Évangile avec amour et bienveillance ? Parce que le fruit de l'amour, c'est la bienveillance. Et l'acte de la bienveillance, c'est la bientraitance. Amour,
bienveillance, bientraitance. Ce qui nous manque à l'heure actuelle dans certaines de nos institutions qui prennent soin de nos aînés, c'est ce chaînage-là. Mais est-ce que dans l'Église, nous l'avons ? Est-ce que dans ma vie, il est présent ? Puis le troisième deuil, enfin, le plus douloureux peut-être, pour être dans l'amour et dans des dispositions bienveillantes, il y a un troisième deuil à faire. C'est l'image que nous nous faisons de nous-mêmes. L'image que nous avons de nous-mêmes et qui nous conduit à adopter des postures, des attitudes, des manières de dire, de parler, d'agir, qui ne vont pas aller dans le sens de l'amour. Voilà des choses qui peuvent nous faire réfléchir sur cette mise en garde de Paul à l'église de Philippe. Certains prêchent Christ par envie. Seigneur, garde-moi de mettre en avant mes envies personnelles, mes désirs. Certains, par esprit de dispute, garde-moi de la stérilité de défendre des choses qui n'ont pas d'importance, qui sont secondaires. Dans un conseil national, on a passé une demi-heure pour savoir si, pour l'offrande, il fallait que les gens se déplacent, viennent devant pour donner leur enveloppe, ou bien est-ce qu'ils restaient à leur place et on faisait circuler, ou bien est-ce qu'on mettait une boîte derrière pour récolter les offrandes et les dîmes. Une demi-heure. C'est drôlement essentiel. Garde-moi, Seigneur, des choses, des disputes, des choses secondaires. Mais donne-moi d'être mu par l'amour et d'avoir en moi des dispositions bienveillantes pour annoncer ton évangile et ta bonne nouvelle, et que cette bienveillance se traduise par des actes de bientraitance de celui et de celle que tu places sur mon chemin. Seigneur, merci de ce que tu manifestes ta bienveillance vis-à-vis de chacun d'entre nous avec tellement de douceur et de tendresse. Alors Seigneur, la manière dont tu nous traites, donne-nous de pouvoir être aussi dans cette disposition-là vis-à-vis de nous-mêmes et de ceux qui nous entourent. Que nous ayons véritablement des dispositions de bienveillance, que nous reflétions ta personne dans ce que nous sommes, dans ce que nous disons et dans notre manière d'agir vis-à-vis de l'autre. Fais de nous simplement tes témoins, Seigneur, honorables et disponibles. Amen.